Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi, en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, c'est le métronome de l'émission dans les tribunes pour s'occuper de la régie et en même temps sur le terrain pour donner 2-3 petits tacles appuyés durant nos débats. C'est Julien Mathieu, salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
Nos invités du jour vont faire la part belle du football féminin. Tous deux viennent du Magny Football Club 78. Avec nous, Claude Calandérian, président du club et coach des U16 féminines. On précise également, Claude, que vous faites partie de la commission du football féminin du district des Yvelines. Bonjour Claude.
Bonjour.
Avec nous également, Christophe Chapuis, qui connaît très bien la maison. Christophe, vous êtes maintenant responsable de la section féminine du Magny Football Club 78. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Une petite pensée pour Noureddine qui a dû déclarer forfait puisque notre président de l'émission est très attendu. Enfin, vous savez, au vu des récents événements, on attend avec impatience sa prise de parole. Va-t-il, oui ou non, retirer la taxe jus d'orange applicable dans nos studios? Réponse bientôt. On retrouvera Noureddine la semaine prochaine. Allez messieurs, une fois n'est pas coutume, on va parler de football. Aujourd'hui, sommaire. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, le monde du ballon rond se féminise toujours plus. En témoigne la création du ballon d'or féminin, remporté pour la première fois par une joueuse de Lyon, la norvégienne Ada Hegerberg, au cours d'une cérémonie toujours aussi ringarde, franchement. Les clubs français brillent sur la scène européenne en football féminin et notre équipe nationale aura la possibilité de ramener la coupe à la maison en jouant à la maison. La France est le pays organisateur de la prochaine Coupe du monde féminine qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019. Peut-on s'attendre au même engouement populaire voué aux footballeurs professionnels dont la mentalité sur le terrain est remise en cause? Premiers éléments de réponse au niveau local, tout d'abord avec nos invités du Magny Football Club 78. Allez, mais tout de suite, place au débat dans Parlons Sport.
Hey, Toshiba là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer les dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard?
Voilà, de belles paroles adressées à des joueurs professionnels. Et bon, à cette époque-là, on disait le vocabulaire était surtout utilisé au masculin et depuis fin des années 90 quand même on a assisté à l'émergence du football féminin. Il est davantage exposé ces dernières années d'un point de vue médiatique. On a des chaînes de télévision qui payent maintenant pour obtenir les droits de retransmission du championnat de France. Effectivement, beaucoup de trophées des clubs français, bien qui ont un palmarès et qui dominent le football européen. Et pourtant, eh bien, on a toujours autant de supporters des équipes masculines professionnelles, les fans des grandes équipes, Barcelone, Real Madrid, le PSG, Marseille, Lyon. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand on regarde un match de Division 1 féminin, on s'ennuie moins que devant Nantes, Strasbourg, par exemple. Alors que en termes de moyens, c'est absolument pas comparable. Déjà, ne serait-ce que le salaire versé à ces footballeurs, ne serait-ce que les structures et puis l'encadrement professionnel, où chaque entraînement est optimisé et bien encadré. Et pourtant, voilà. Enfin, pourtant, j'ai envie de vous dire que en termes de d'intensité, en termes de valeur sportive, j'ai l'impression, il vaut mieux regarder un match de football féminin ces dernières années. Qu'en pensez-vous, messieurs?
Je suis assez d'accord avec vous, pour plusieurs raisons en fait. C'est que le foot féminin est certes moins physique que le foot masculin, mais il y a toujours cette envie de jouer et de se faire plaisir sur un terrain. Ce qui manque en fait au foot masculin aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'enjeux financiers et que les équipes ne prennent plus aucun risque. Le but, c'est de bien défendre, de pas prendre de but et d'essayer de gagner un match. Au foot féminin, elles travaillent tout en dehors. Mmh. Elles viennent pour s'amuser, pour jouer. Et elle se donne à 100% sur un terrain.
Donc vous êtes en train de nous dire, Christophe, que finalement...
L'argent tue le sport, oui.
Voilà, enfin, il y a eu... Enfin, plus il y a d'argent, plus il y a des investissements, plus on veut sécuriser les investissements, et donc on demande avant tout...
Au
staff et aux joueurs de maintenir cet équilibre financier et donc de ne pas descendre dans la division inférieure, quoi, au risque de faire diminuer drastiquement le budget.
Tout à fait. C'est ce qui se passe dans le foot, dès qu'il y a beaucoup trop d'argent. C'est ce qui se voit. Et au foot féminin n'est pas touché pour le moment par rapport à ça.
Claude, vous avez le même avis sur la question ?
Oui, on peut avoir le même avis avec, je dirais, un complément pour moi qui est de dire que le football féminin aujourd'hui s'adresse effectivement à un nombre d'équipes qui sont beaucoup moins populaires par rapport aux équipes masculines. Et donc de ce fait-là qui permet l'ouverture dans les divisions, aussi bien en ligue que plus bas, d'avoir de petites équipes qui peuvent rivaliser avec les autres grandes équipes. Après, il y a un écart de jeu qui se fait, mais c'est vrai que c'est ce qui peut amener pour moi la popularité du football et du développement du football féminin.
Alors comment vous avez vu ce football se développer ces dernières années, déjà au niveau local, hein, puisque maintenant il va y avoir une section féminine au sein du club de Magny, Football Club 78, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais de manière générale, comment est-ce que vous êtes surpris de voir le développement de ce sport? Est-ce que vous pensiez que le football féminin allait prendre plus d'ampleur du fait que voilà, depuis ces dernières années, on a quand même l'habitude de promouvoir la place de la femme dans la société et donc dans le sport. Comment vous jugez cette trajectoire du football féminin de ces dernières années ?
Ben déjà, nous, au sein du Magny Football Club, pour ma part, moi j'étais président de 95 à 2005, et en 2002, on a eu déjà notre première équipe féminine. Et sans avoir pour autant... étaient, on va dire, des visionnaires au niveau du football féminin à Magny, c'était une nécessité pour développer le foot, aussi bien masculin que féminin. Je pense que il était important pour nous d'avoir cette section féminine. Bon, malheureusement, après, elle s'est éteinte. Et là, depuis 2-3 ans, elle repart, elle est repartie avec une alliance, et puis aujourd'hui, elle repart en nom propre. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui viennent, des petites, des ados qui sont intéressés, et puis maintenant des équipes seniors qui se créent. Donc il y a une vraie envie de participer à ces joueuses, de participer au football, de découvrir autre chose. Voilà. Après, comment ça vivra plus tard, je pense pas qu'on sache le dire, mais il est vrai que le fait de médiatiser beaucoup plus qu'auparavant les matchs de L1 et autres de ces divisions féminines, ça fait que le sport féminin et le football pour nous en particulier est tiré de plus en plus vers le haut.
Alors j'ai une question qui me vient à l'esprit, Julien, si tu as des éléments de réponse aussi, tu as le droit d'y participer. Est-ce qu'on a besoin, dans n'importe quel sport, d'avoir une bonne locomotive, c'est-à-dire d'avoir un sport masculin en bonne santé pour que ce sport se féminise davantage, pour voir éclore des clubs féminins et davantage de sportives féminines. Donc ça vaut pour le football, ça vaut aussi pour le handball, ça vaut pour le basket.
Bah, moi, je dirais que oui, parce que le fait que l'équipe de France ait gagné la Coupe du Monde cette année donne envie de regarder la Coupe du Monde 2019, qui se passera en France en plus, donc chez les féminines. Ouais. Ça donne envie, je pense. Ouais.
Donc quand t'as une équipe qui gagne une grande compétition, la cible, elle est très large.
Ouais.
Et donc elle touche à la fois la victoire a pour effet de provoquer un engouement femmes et hommes confondus. C'est ouais. ça. Et donc ça va donner envie à des jeunes sportives de se mettre au sport qui marche dans le pays en question.
Ouais, je pense. J'ai lu une interview de. C'était qui déjà? C'était, je crois que c'était Eugénie Le Sommer qui disait que son héros quand elle était petite, c'est Zidane. Après, bah après la finale de 98, et c'était ouais. lui qui lui avait donné envie de faire du foot. Donc je pense que cette année, il y a sûrement plein de jeunes filles qui ont dû s'inscrire cette saison-là au foot pour bah peut-être pour devenir Mbappé, Griezmann, féminin quoi.
Alors Julien parlait de Zidane comme icône dans le football général. Est-ce qu'on peut dire que Marinette Pichon a été une sorte de symbole dans le football féminin qui a donné envie à des petites filles de se mettre à leur tour à ce sport?
Je pense que oui, elle a été une pionnière du football français féminin. C'est la première qui est partie aux États-Unis pour devenir professionnelle il y a quelques années, et c'est à ce moment-là où les télévisions ont commencé à s'intéresser au football féminin. Et le football féminin s'est plus développé à partir de cette période. Et les résultats de l'équipe de France ont également suivi à partir de ce moment-là. C'est monté crescendo. Et on attend désormais la victoire ultime dans 6 mois, en fait, à cette Coupe du Monde. Ce qui serait très important pour les clubs, que ce soit les clubs, les tout petits clubs comme nous, parce qu'on vient de se recréer, mais pour tous les clubs français, c'est important. Et un parallèle qui est assez bizarre, c'est que notre football masculin français fonctionne bien avec l'équipe nationale, puisqu'on est champion du monde. Mais au niveau des résultats européens des clubs français, football masculin, on est très mauvais.
Ouais.
On est même ridicule, on peut dire. Alors que le football féminin, c'est l'inverse.
Mmh. Ouais.
Notre football
féminin. On sent qu'on soit
club...
ridicule en équipe de France féminine. On n'est pas ridicule en équipe de France féminine.
Non, non,
mais
on
c'est
pas
vrai
ridicule.
Qu'on est les meilleurs du monde. Enfin, Lyon et le PSG,
voilà,
c'est certainement.
Ils cartonnent depuis des années. Ouais. Donc, ils font évoluer le football français féminin. Et faut que ça arrive juste. L'équipe nationale est à un bon niveau. Elle prétend à la victoire finale. Donc, c'est qu'elle a les capacités. Mais on attend cette victoire qui serait très importante mentalement pour les joueuses. Et elles en ont les capacités.
Cette victoire ou ce podium? Parce que ou c'est ce jamais podium. Arrivé du coup.
Oui, pas de podium. Et beaucoup de quatrième place aussi depuis 3-4 compétitions. Et ça passe pas très loin à chaque fois.
Ouais.
Mais il manque un petit quelque chose.
Alors, on a eu, on a souvent discuté ici des performances de l'équipe de France féminine. Bon, la Coupe du Monde, elle est dans pas longtemps, et puis on constate que ces derniers temps, on a quand même une certaine instabilité au niveau de l'encadrement. J'ai plus, il me semble qu'il y avait Bruno Bini, puis Philippe Bergerot.
Tout à fait.
Bergerot. Pas resté longtemps, il était remplacé par Echouafny,
tout à fait,
et puis là c'est Corinne Diacre qui a repris l'équipe. Comment est-ce qu'elle a les armes ou pas cette équipe de France féminine pour faire un beau mondial à domicile? Alors avant que je laisse répondre à cette question, on rappelle que le tirage au sort des phases de poule a eu lieu samedi dernier et que la France va affronter successivement la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria.
Tout à fait.
La Norvège sans potentiellement sans la Ballon d'Or Ada Hegerberg qui a été sacrée il y a quelques jours également. Alors cette équipe de France, qu'est-ce qu'on en attend? Parce que finalement, vous l'avez rappelé, Lyon trust les bonnes places et les finales dans les compétitions européennes.
Le PSG, les victoires en Ligue des Champions.
Les victoires en Ligue des Champions. Le PSG, c'est du très costaud. Et puis, on a toujours plus d'équipes qui investissent dans leur section féminine. Je pense à Marseille, je pense à Montpellier. Donc on a quand même un niveau qui augmente, une importance qui s'accroît dans les gros clubs en tout cas. Est-ce que tout ça sont de bons indicateurs pour que l'équipe de France fasse un bon parcours au prochain mondial?
Ça peut, oui, bien sûr. Je pense que les qualités, de toute façon, l'équipe de France, elle les a. Après, ça a trouvé la bonne osmose. C'est peut-être pour ça que les deux précédents sélectionneurs ne sont pas restés très longtemps en équipe de France, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver l'osmose parfaite pour permettre d'avoir les résultats derrière. Parce que la qualité, elle est là. Après, il faut savoir aussi que le sport féminin, il faut beaucoup de psychologie, encore plus que chez les garçons. Il suffit d'un tout petit grain de sable, et si vous n'avez pas d'équilibre dans votre équipe, ouais, quelles que soient vos qualités, vous n'y arriverez pas.
Donc vous nous dites, Christophe, qu'on ne coache pas une équipe masculine comme on coacherait une équipe féminine.
Non.
Ne serait-ce que sur l'aspect psychologique.
Tout à fait. Il faut être très attentif à son groupe, à comment vit son groupe. Et je pense que c'est le côté le plus difficile de la mission d'un sélectionneur pour l'équipe de France féminine.
Pourquoi ? Parce que les... Je ne sais même pas si vous m'entendez, parce que moi j'ai très peu de retours.
On t'entend très peu, mais je vais relayer ta question. Tu poses ta question.
Ma question c'était, parce qu'en fait j'allais vous demander, est-ce que les filles du coup sont plus émotives par rapport à ce que vous venez de dire ? Les filles sont plus émotives que les garçons ? C'est ça ?
Je ne pense pas qu'elles soient plus émotives, mais elles peuvent facilement se braquer pour une parole d'un coach, pour un petit détail, elles peuvent se braquer et ne plus se donner à 100% sur un terrain.
Bon, j'ai envie de vous dire, Paul Pogba, il se braque aussi facilement en ce moment. Il n'est pas à 100% lors de ses matchs à Manchester. Hein.
Ça arrive aussi, oui.
Après, là, on est en train de parler de joueuses qui évoluent quand même...
À très haut niveau.
À très haut niveau. Donc, qu'on puisse dire effectivement qu'à un moment... Il y a peut-être un grain de sable dans les rouages qui fait que ça ne marche pas. Enfin, c'est des professionnels. Ouais. Même si aujourd'hui, elles n'ont pas la reconnaissance, on va dire, financière dans les clubs par rapport au football masculin. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui change vraiment. L'investissement, il est le même. L'envie de jouer est la même. Voilà, l'envie d'avoir des résultats, c'est aussi lié aussi au club. Il y a une pression qui est plus donnée sur les clubs qu'autres. Et puis après, il y a les investissements dans les clubs qui font que certaines équipes arrivent à évoluer à des niveaux autres que le championnat français. Quand on voit le travail qui a été fait à Lyon en 10 ans, c'est magnifique, quoi. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu cette présence financière, C'est vrai que le développement n'aurait peut-être pas été le même. Mais encore une fois, bravo à tous les clubs qui ne sont pas sur la même lignée financière et qui arrivent à jouer aussi ces matchs-là avec ces filles-là.
Et à rivaliser aussi.
À rivaliser et puis qui sont quand même... toutes ces équipes-là sont moteurs dans le développement du foot féminin. Après, certes, c'est bien de briller, mais c'est bien aussi de participer, d'être là et c'est important.
Alors, je rappelle la date de la compétition, la Coupe du Monde féminine de football. Donc, ça commence le 7 juin et on espère pour nous la finale le 7 juillet. Est-ce qu'on connaît la valeur de nos adversaires, la Corée, la Sénégal. Norvège, le Nigeria Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un groupe facile et quels sont les favoris de la compétition?
Facile, c'est toujours difficile à dire ça en fait. C'est largement à la portée des équipes de France. Tu dois finir première de ce groupe logiquement. Après, il faut toujours faire attention. Un match n'est jamais gagné d'avance. On l'a vu dernièrement, il y a quelques mois, il y a eu un France-Nigeria où la première mi-temps a été très compliquée. Et au final, j'ai plus le score final, mais je crois qu'en deuxième mi-temps, elles ont vraiment sorti le grand jeu et il y a eu 8 ou 9-0 au final. Donc ça peut aller très vite, mais il faut rien n'est gagné d'avance. C'est pas juste à mettre le maillot d'équipe de France et se dire on a gagné contre ces équipes-là. C'est une Coupe du Monde, c'est une compétition. Les nations dites plus petites vont aussi se donner à 100% sur un terrain parce que ça va leur permettre de faire évoluer leur fédération et leur équipe nationale, donc c'est pas gagné. Mais c'est plutôt un bon tirage, on va dire.
Et je crois que déjà que toutes ces équipes ont participé à tous les mondiales féminins, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, à chaque fois qu'elles ont participé à une Coupe du Monde, elles sont toujours sorties de leur poule. Ces trois équipes-là. Donc, tu as dit Nigeria, Canada et Corée du Sud. Alors,
Corée du Sud, Norvège.
Norvège,
oui. Voilà.
Le Nigeria ayant quand même un niveau football féminin qui est le top de ce qui se fait en Afrique aujourd'hui. Hein.
Ah oui,
c'est une des meilleures équipes africaines. Voilà, la Corée du Sud, il ne faut pas oublier qu'on a eu quelques déboires avec la Corée du Sud et qu'on a peut-être une revanche à prendre au niveau du foot féminin sur ce match-là. Donc je ne pense pas que tout soit si facile que ça. Ouais. Même si on aimerait que ce soit très facile pour nous et qu'on sorte tranquillement de cette poule.
Vous parlez de quel match ? Parce que moi, j'ai un match en tête contre le Japon au JO, je crois. Mais oui, Corée aussi. Du Sud, je vois pas.
Si, il y avait eu un match France-Corée, je crois, ou enfin c'était plus Corée-France.
Là, je l'ai pas en tête, je retrouve.
Lors d'un mondial.
Ouais, il faudrait qu'on retrouve ça.
Mais du coup, pour les favoris, États-Unis, Brésil, Chine.
L'Allemagne, la France. L'Allemagne.
Ouais, États-Unis, oui.
L'Angleterre, c'est pas mal non plus. Il y a le Canada aussi,
ouais.
Qui nous a, ces deux dernières compétitions, qui nous a sorti.
Le Canada, ouais.
Donc, c'est. Fait. Voilà, il n'y a pas de match facile. Ce sera une belle compétition,
matchs.
On espère, qui sera suivie, on l'espère, et à nous aussi d'emmener, de supporter cette équipe de France pour l'emmener à la victoire finale. Parce que on aura, les supporters auront, je pense, un rôle à jouer. Mm-hmm. On l'a vu en 98, je pense que les joueurs français l'ont dit après, que l'engouement qu'il y a eu leur a permis aussi de se donner plus sur le terrain, et notamment en finale contre le Brésil. C'est pour les filles pareil, il faut qu'on soit derrière, qu'on les supporte au maximum et qu'on les pousse vers la victoire. Quand les matchs sont difficiles, le public a aussi un rôle à jouer à ces moments-là, et on est à la maison, à nous d'en profiter.
Où est la finale d'ailleurs? C'est au Stade de France?
Non, c'est à Lyon.
C'est à Lyon.
Ah, c'est à Lyon. Okay.
Aucun match au Stade de France.
Au parc, certainement au Parc des Princes.
Oui, ouais. Oui, il y a 7 matchs
au Parc. Le match d'ouverture est au parc.
Parc des Princes. Donc on se dit que le Stade de France, ça, il ne sera pas rempli, ouais, s'il y a des matchs.
Il n'a pas été retenu en tout cas,
ouais,
dans les matchs qui accueillent cette compétition.
Il faut tout faire pour remplir le parc déjà, qui est un beau stade, avec un beau match d'ouverture pour cette équipe de France. Je pense que voilà, tout est mis en place par la Fédé pour que ça puisse marcher. En plus, des prix très attractifs au niveau des matchs et des packs. Donc faut que...
La billetterie est déjà ouverte?
Oui, la billetterie
voilà,
va s'ouvrir, enfin est ouverte pour les clubs.
Ok.
Pour les clubs et...
Et là, je crois que c'est ouvert également
au grand public. Du 7
depuis,
au grand public, ouais.
Depuis mi-novembre.
Et l'avantage, c'est que voilà, le tirage ayant été fait, maintenant on peut choisir ses matchs, on peut choisir des choses,
ouais,
des choses sympas à voir. Donc,
Et pour des matchs de poule, c'est à peu près entre 10 et 15 euros une place,
ah oui,
par exemple,
abordable.
Au Parc des Princes. Mmh. C'est vraiment abordable et c'est ce qu'il faut justement. Pour promouvoir le football féminin, donc il faut surfer sur cette vague, il faut que les stades soient pleins et remplis. Mmh.
Parlons de la coach de l'équipe de France, Corinne Diacre, donc qui a un parcours très atypique, ancienne joueuse célèbre de l'équipe de France, c'était quand même l'une des tolières sur le terrain, et elle a entraîné l'équipe masculine de Clermont en deuxième division, en Ligue 2.
Tout à fait.
Bon, avec un bilan très correct, hein. Le Clermont était toujours en milieu de tableau, mais jamais proche de la relégation, et puis parfois à quelques longueurs les prétendants à la montée. Est-ce que ça lui a servi, selon vous, cette expérience atypique, ou quand même c'était la première fois où dans les divisions professionnelles, on avait une femme qui coachait des équipes masculines dans le football?
Oui, oui, c'est une bonne expérience. Toute expérience est bonne à prendre de toute façon. Après, par rapport à cette question, on se pose toujours la question, et est-ce légitime qu'une femme entraîne une équipe de football masculin? Mais on se pose jamais la question dans le sens inverse. Pourtant, on a eu Olivier Chauffny, Bruno Bini, Philippe Pergerot, qui étaient des hommes,
Manny,
qui étaient les sélectionneurs de l'équipe de France féminine, sans que personne ne trouve de problème à cela. Donc, c'est pas encore démocratisé, mais ça va peut-être venir. Et il y a énormément de femmes qui ont les capacités et les compétences pour entraîner des hommes sans aucun problème. Après, c'est, je pense, une volonté au niveau des clubs de les intégrer ou pas. Mais les clubs professionnels ayant énormément, comme on disait tout à l'heure, d'enjeux liés à l'argent, aux résultats derrière, qui n'osent pas prendre ce risque-là.
Ouais.
Parce que pour eux, ils pensent que c'est un risque, alors que je vois pas
ils
pourquoi.
Ils ont des a priori très
que ce soit un homme ou une femme,
pour
coacher une équipe, c'est
question,
voilà, les compétences et les capacités, tout le monde peut les avoir.
Alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus, hein, pour des athlètes, pour des top athlètes masculins, d'avoir recours à un encadrement féminin. On le voit dans le tennis, Amélie Mauresmo qui va s'occuper de Lucas Pouille maintenant et qui donnait quelques conseils à Andy Murray
à
une certaine époque.
Tout à fait.
Et puis j'ai trouvé qu'on n'a pas suffisamment peut-être parlé de ce passage de Coen Diacre. Clairement, on a fait des tonnes et des tonnes quand elle est arrivée. Là, pour le coup, il y a une volonté du président de Clermont de voir une femme entraîner les hommes, puisque Coen Diacre était aussi venu dans des conditions un peu rocambolesque, où c'est déjà une première femme, voilà.
Je me rappelle plus de son nom.
Costa, je me rappelle plus de son prénom, qui au bout de quelques jours avait dit non, finalement, je jette l'éponge, et puis Coen Diacre avait pris l'équipe en main. Donc parcours assez atypique. Bon, en tout cas, elle a l'avantage de connaître les joueuses et puis cette équipe de France. Alors en 2018, l'équipe de France masculine a été championne du monde en ayant des joueurs qu'on ne connaissait pas vraiment un an auparavant. Donc est-ce qu'on aura une Kylian Mbappé au féminin au prochain mondial là? Quelles sont les pépites en ce moment du football féminin? Puisqu'on le rappelle, on a quand même eu des joueuses extraordinaires qui ont pris leur retraite. Je pense à Louisa Nessib, des taulières comme Laure Boulot. Aujourd'hui, quels sont les éléments forts de cette équipe? On pense à la capitaine Wendy Renard, mais est-ce qu'on a des pépites là qui vont venir?
Oui, il y a une belle équipe de France. Faut croire en elle. Il y a Amandine Henry qui est aussi mondialement reconnue au niveau du football. On a toujours Eugénie Le Sommer qui continue de planter but sur but à chaque fois qu'elle porte le maillot de l'équipe de France. Voilà, on a beaucoup de bonnes joueuses.
Comment elle s'appelle la lyonnaise là, Amel
Majri,
voilà.
Qui a également beaucoup de talent. On a l'attaquante du PSG, Katoto, qui enchaîne but sur but et qui est actuellement la meilleure buteuse de la première division, qui a 19 ou 20 ans, je n'ai plus l'âge exact en tête, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité, il faut les laisser jouer, les laisser s'exprimer sur le terrain. Et voilà, ça va bien se passer. On a cette chance d'avoir Corinne Diacre aussi qui a joué pendant un long moment au football, qui connaît tout ça. Voilà, elle sort pas de n'importe où en fait. Elle connaît le football, elle connaît les joueuses, et je pense que ça peut aller jusqu'au bout.
Il y a de la qualité technique et il y a une force mentale aussi, j'ai l'impression, à l'image de la capitaine Wendy Renard.
Oui, de plus en plus, et on a des jeunes qui poussent, qui sont très intéressantes. Après, ça a trouvé le bon équilibre, toujours. C'est ce qui a manqué sur la dernière compétition. Il y avait des petites tensions dans l'équipe que j'espère, là, avec Corinne Diacre, il n'y aura plus, et que les résultats, forcément, seront meilleurs.
Et l'avantage d'avoir cette Coupe du Monde en France, ça va justement permettre à mettre en valeur toutes ces joueuses-là que... Ceux qui s'intéressent au football féminin connaissent, mais que le grand public aujourd'hui ne connaît pas tout. Et voilà, le gros avantage, ça va être ça. Et pour revenir à votre premier sujet, qui était l'encadrement des équipes féminines, moi, ce que je déplore un peu, c'est qu'on n'ait pas aujourd'hui assez de femmes qui encadrent justement des équipes féminines et qu'on fait encore appel à des anciens joueurs pros. C'est très bien, ça développe. Mais voilà, je pense qu'il serait... important et très judicieux pour tous ces clubs de pouvoir avoir dans l'encadrement une responsable féminine. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont certainement disponibles, qui seraient intéressés. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il, encore une fois, ça pourrait être qu'un élément supplémentaire dans la promotion et le développement de ce sport?
Alors les choses avancent quand même un peu dans ce domaine, hein. Il y a eu une loi sur la parité dans les instances dirigeantes des fédérations qui a été votée il y a quelques années. Je pense qu'on tend vers une féminisation à la fois des postes clés dans les instances dirigeantes. C'est une question que je voulais vous poser un peu plus tard, mais du coup, est-ce qu'on a beaucoup d'encadranteux dans un club de foot? Au niveau local, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve beaucoup d'encadrants masculins sur les terrains d'entraînement chaque semaine ou sur les matchs quand on voit les arbitres dans les matchs de foot amateur? Comment on en arrive à cette situation là?
Je pense que ça vient des mentalités et de la volonté des présidents des clubs, tout simplement, parce que je pense que les femmes n'osent pas venir demander est-ce que je peux entraîner, est-ce que je peux aider. Puis si elles voient qu'il y a des hommes en place, ouais, il y a du monde en place, tant que, si on ne fait pas appel à elles, elles ne viendront pas. Mm-hmm. Par contre, si vous allez les voir, vous demandez est-ce que ça pourrait vous intéresser de venir encadrer, il faut leur demander et elles sont demandeuses. Il n'y a pas de souci et je pense que petit à petit, les clubs vont tendre vers ça. Parce qu'il y aura forcément du besoin au bout d'un moment. Et je sais, le président va mieux en parler que moi, mais c'est ce qu'il est en train de mettre en place au sein du club. Essayer d'être aidé aussi par, que ce soit par le district ou la fédération, pour pouvoir avoir facilement et rapidement des diplômes pour ces personnes-là, parce que les femmes n'osent pas des fois encadrer parce qu'elles pensent qu'elles sont incompétentes, alors qu'elles ont les mêmes capacités. Mmh. Et elles n'osent pas parce qu'elles entendent dire qu'il faut avoir des formations, des diplômes et tout ça. Mais en fait, elles sont juste à les passer.
Mmh. Vous êtes de cet avis, Claude ?
Oui, je suis de cet avis, d'autant plus que dans ces personnes qui s'investissent maintenant dans les clubs, on a beaucoup de mamans. Et il y a un aspect pédagogique qui est totalement différent de l'approche masculine avec des jeunes filles. Donc, moi, je trouve ça très important. Et enfin, chez nous, moi, j'essaye de pousser au maximum pour que dans l'encadrement des féminines, bon, aujourd'hui, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de gens qui veulent s'investir. Donc, on prend en charge des équipes féminines. Mais mon vrai bonheur, ce serait pouvoir dire, voilà, j'ai 3, 4, 5 catégories féminines. Mais c'est que des femmes qui les encadrent, et aussi bien sur la partie technique que sur la partie accompagnement. Donc aujourd'hui, on arrive à développer la partie accompagnement. C'est bien déjà, hein, elles arrivent d'elles-mêmes. Maintenant, il faut réussir à les motiver, les garder, les former pour que demain, ce soit elles qui
prennent en charge. Et... petit à petit.
Voilà.
Alors vous savez, on est aussi encadré dans cette émission et on est encadré par le temps. Nous allons marquer une petite pause musicale dans Parlons Sport. On se retrouve dans quelques minutes. On est en direct sur Marmite FM 80.4. A tout de suite. A dedication to all the refugees worldwide. One time.
Say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness, as it mingle with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say. To my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say. I remember when we used to rock. Project yard in Jersey, and little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Oh,
De retour dans Parlons Sport sur Mamit FM 88.4. On est en direct jusqu'à 18h avec nos invités du jour, Claude Calandérian et Christophe Chapuis pour le club de Magny Football Club 78. Et on parle de football au féminin aujourd'hui. Alors on discutait un petit peu de l'état des lieux du football féminin en France. Concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre en faisant du football féminin comme le font beaucoup de footballeurs, de rugbymen, de handballeurs, de basketteurs? Comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore l'obligation d'avoir une activité professionnelle à côté d'une activité sportive pratiquée quand même au plus haut niveau?
Alors oui et non. Les grandes stars du football féminin, hein, on va dire, celles qui jouent à Lyon ou au PSG pour la plupart, mais pas toutes, ont cette chance d'avoir un salaire qui peut leur permettre de vivre sans travailler à côté. Mais c'est le cas pour très peu d'entre elles, en fait. Et c'est pas les mêmes sommes que chez les garçons. Vous divisez au moins par 100 ou par 1000 ou même peut-être plus. Mais elles peuvent juste faire ça, en fait, entre guillemets. Ça peut leur suffire. Mais c'est pas la majorité des clubs. Même les joueuses qui sont dans les autres clubs de première division française travaillent à côté. Ouais. La majorité des clubs à côté, que ce soit à Guingamp, que ce soit à Rodez, que ce soit à Fleury, au Paris Football Club, voilà, tous les autres clubs de première et de deuxième division, les joueuses travaillent à côté pour 100% d'entre elles, parce qu'elles ont besoin. Ça, c'est juste un petit complément qu'elles ont qui peut pas, c'est pas un salaire.
Je n'ai pas vraiment d'aperçu sur ce qui se passe dans les autres pays en Europe. Mais on peut imaginer que c'est le même modèle, je ne sais pas, en Allemagne ou en Angleterre, ou alors l'Allemagne, qui est un pays où il y a une culture sportive bien plus développée qu'en France. On rencontre moins souvent ce type de problème d'allier la fatigue physique d'une activité professionnelle avec une activité sportive.
Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas regardé ça. Mais c'est possible qu'il y ait peut-être plus de moyens pour elles dans ces pays-là. C'est possible, c'est dans la culture de ces pays, ouais. comme vous dites. Mais après, c'est vrai qu'en France, non, c'est pas le cas. Pour quelques-unes, oui, mais non. Mm-hmm. La majorité doivent travailler à côté, ce qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut aussi les soutenir et les encourager à continuer, à pas lâcher le morceau, comme on dit.
Alors Claude, en tant que président du club, comment la fédération communique auprès des clubs pour promouvoir le football féminin? Est-ce qu'on est dans une politique de faites au mieux, ou alors est-ce qu'on donne quand même davantage de moyens, je sais pas, des subventions, des outils pédagogiques ou du matériel, ou des formations pour prendre en compte des nouvelles pratiques, ou en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de joueuses dans le football?
Alors moi, à mon niveau, je dirais plus que c'est sur la partie départementale et avec le district des Yvelines de football où oui, effectivement, il y a aujourd'hui des actions qui sont faites et mises en place pour la promotion du football. Les formations d'animatrices commencent à être prises en charge pour justement permettre ce développement. Il y a aussi, le développement d'actions sur les villes, sur les communes du département qui font que on essaie de sensibiliser au maximum la gente féminine pour les intéresser à la découverte et les faire venir au football. Et puis voilà, donc ça c'est toutes les aides qui sont mises en place. Il y a des aides matérielles aussi qui sont mises en place par le district. À partir du moment où vous arrivez à créer des équipes, vous êtes assez fidèles, donc il y a une dotation qui est faite. Et voilà, ça aide aussi énormément, comme ça a été fait il y a quelques temps et ça se fait encore dans le football masculin. Eh bien, on commence à le décliner sur le football féminin et c'est que positif, quoi.
Alors, venons-en au niveau local maintenant avec votre club, le Magny Football Club 78. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'histoire sur la construction du club en général, avant de nous expliquer concrètement comment la section féminine a émergé au sein du club et comment elle vit aujourd'hui.
Ah bah alors, le Manif Football Club, c'est une histoire qui n'est pas très vieille. Hein. On est arrivé. Le football a été créé à Manille en 1975 avec l'association qui s'appelait la SCM, AS Chrisley Manille, qui regroupait 4 ou 5 associations différentes, telles que le basket, l'athlétisme, le foot. Voilà. Et en 1995, il y a la dissolution de cette association commune où on a redonné au basket, à l'athlétisme, au foot, la possibilité de vivre de ses propres ailes et de repartir sur de bonnes bases. Et la création du Manille Football Club a eu lieu en 2000. Donc c'est un club qui est assez jeune. Mmh. Et voilà, le football féminin est arrivé au sein du Manille Football Club en 2002-2003 avec la création d'une équipe senior à l'époque. Et voilà, c'était vraiment une volonté de ma part de développer ça, parce que moi j'ai toujours cru dans le développement de ce sport, sur le plan local déjà. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir d'aligner l'équipe féminine. Mmh. Y avait pas, c'était pas encore l'engouement comme on peut voir aujourd'hui sur le département, sur la région ou même au niveau national. Voilà, on était là, il fallait être là. Malheureusement, c'est pas toujours facile de retrouver des joueuses. Donc vous avez des sections. Ouais. La section s'est éteinte. Et puis là, elle est repartie parce que voilà, on parle de plus en plus de sport au féminin. Et on a en plus, nous, l'avantage à Manille d'avoir une commune qui est très demandeuse au niveau du développement du sport au féminin en général, pas que pour le football. Donc voilà, on s'appuie aussi sur les aides que la commune peut nous amener pour promouvoir ce sport-là. Des actions qui sont menées avec par le service des sports, avec tous ces sports qui peuvent être attirés par le mouvement féminin, et d'avoir ces réunions, ces programmations, ces soirées qui sont organisées, qui commencent à s'organiser, voilà, c'est très important pour nous, pour le développement.
Donc, alors, si vous avez pu développer à nouveau récemment une section féminine, c'est que lors des formes au forum des associations, vous deviez avoir un peu plus de demandes quand même ces dernières années, non?
Ben, moi, je ne pourrais pas trop vous le dire parce que je suis revenu au club là cette année.
D'accord.
Donc, c'était assez récent. Mm-hmm. Mon forum, ça a été au mois de septembre. Donc, on avait déjà mis en place des actions avec Christophe, mm-hmm, de faire découvrir le football. Donc, on avait fait 4 ou 5 journées portes ouvertes à partir du mois d'avril. Et fort du résultat et de la présence de quelques joueuses, on avait récupéré entre 10 et 12 joueuses.
D'accord.
Donc on s'était dit, voilà, on peut essayer de faire quelque chose. On était parti sur plus une équipe en petite catégorie. Et puis à notre grande surprise, on s'est retrouvé avec des U13, des U11, pardon, des U16, mm-hmm, et puis des petites. Donc voilà, c'est d'un objectif de se dire, voilà, on développe une équipe féminine. On était peut-être un petit peu trop ambitieux en se disant on va toujours tout de suite avoir une équipe senior A7 qui pour moi est quand même la manière de tirer vers le haut et de faire venir du monde. Mmh. Et ben bon, on n'a pas réussi cette année, mais on a un gros projet de réussir. On fait une grosse campagne de pub, de distribution de flyers qui font qu'à un moment on va y arriver. Hein. Faut laisser le temps au temps. Mais voilà, déjà les résultats qu'on a aujourd'hui, ils sont très intéressant, et voilà. Et en plus, il y a vraiment un engouement sur la commune, je pense. Les parents sont là, les enfants sont tout aux entraînements, qu'il fasse beau, pas beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, elles sont demandeuses. On est passé à 2 entraînements parce qu'un suffisait plus. Donc voilà, c'est fort de tout ça, on va faire des choses très sympathiques.
Alors, combien de licenciés EES en tout alors?
Là, ce jour, 386.
Et en féminine?
Et en féminine, c'est 22.
22, d'accord. Donc, vous avez pu ouvrir une section U16.
Voilà. Et en fait, on pensait principalement avoir que des petites, des filles au foot au départ. Et on a donc une équipe filles au foot, une équipe en catégorie U11 et une équipe en catégorie U16. Mm-hmm. Donc, on a déjà 3 équipes pour cette saison. Et on espère, parce qu'on a quelques U13... pour le mois de janvier, de pouvoir ouvrir une équipe également en U13 féminine. Mmh. Ce qui nous ferait 4 catégories, 4 quatre catégories d'âge, pardon, et voilà, d'avoir quatre équipes, et c'est plus on aura de monde, plus on fera parler de nous, et plus on va réussir à se développer.
Donc, et c'est à partir de combien qu'on se dit qu'on peut ouvrir dans telle catégorie ?
En filles au foot et en U11, on joue à 5 sur le terrain, à 4 ou 5.
Ce sont des matchs à 5 sur le terrain ?
Voilà, c'est des petits terrains à effectif réduit. Après, à partir de 13 et de 16, ça joue à 8 ou à 7. Donc là, il faut une bonne dizaine de joueuses par catégorie. C'est ce qu'on a pour le moment, donc on devrait y arriver. Mmh.
Et donc, le 11 contre 11, c'est dans les catégories seniors, alors, c'est ça?
C'est,
Ou alors, il y en a toujours ça, du 7 contre 7.
Ça se peut en U16, ça se fait, mais là, ça ne joue pas en district, ça joue en ligue. Mais pour pouvoir jouer à 11 contre 11, il faut avoir minimum 20 licenciés dans cette catégorie.
D'accord.
Donc, pour une première année, c'est déjà bien d'avoir ces trois équipes. Mmh. Peut-être une quatrième en cours de saison, et on espère avoir encore plus pour la saison prochaine. Mmh. On va continuer nos campagnes de flyers et de promotion et de bouche à oreille.
Vous pouvez même faire un appel là en direct, il est 17h47, où les joueuses qui nous écoutent doivent-elles se rendre à Magny pour pouvoir pratiquer le football ? Quel centre d'entraînement ?
On leur donne rendez-vous le mardi soir à 18h au stade Jacques Anquetil à Magny-les-Hameaux, où il y a l'entraînement des petites et des catégories jusqu'à U16. Et le jeudi soir pour les catégories U16 qui s'entraînent aussi à partir de 18h30. Voilà, ce qui est le plus dur avec les filles pour nous dans le football féminin, c'est d'arriver à les fidéliser, parce que si vous en avez une qui tient pas, elle va partir avec 2-3 copines. Mmh. Et là, ça s'écroule. Donc par contre, quand elles viennent, elles peuvent venir à 3 ou 4.
Ouais.
Donc c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant et arriver à développer. Et plus on arrive à les fidéliser, plus ça parle, mieux ça parle, et
ça va attirer d'autres.
Alors, comment se déroulent les entraînements ? Ce sont des entraînements mixtes, où on rassemble filles et garçons, ou alors ce sont des entraînements différents ?
Non, uniquement féminin. C'était notre volonté. On a deux autres joueuses qui, par contre, veulent jouer en mixité, donc qui s'entraînent avec les garçons. Et on a laissé cette possibilité, en fait, aux joueuses de soit pouvoir jouer uniquement entre elles, ou soit de jouer en mixité avec les garçons. Comme ça, on est ouvert, et elles ont le choix, en fait, de suivant leurs envies et là où elles se sentent le plus à l'aise.
Et nous, ce qu'on a eu comme retour avec la création de ces sections féminines, c'est d'avoir des jeunes filles qui sont nées au football féminin parce qu'elles ne voulaient pas jouer en mixité.
D'accord.
Donc le fait d'avoir créé ces catégories vraiment 100% féminines, on fait que on a attiré du monde.
Alors du coup, c'était la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de section féminine, à partir de quel niveau, enfin jusqu'à quel niveau on a le droit d'avoir des équipes mixtes ? Parce que moi, je me souviens que quand je faisais du foot à l'époque, te moque pas Julien, j'ai fait du foot effectivement, il y avait des filles qui étaient dans l'équipe, et donc on avait des équipes mixtes.
Jusqu'à 15 ans maximum.
D'accord.
Elles peuvent jouer en U14 avec les garçons, mais après cet âge, elles ne peuvent plus jouer en mixité.
D'où l'importance de développer ces catégories U16 de façon à pouvoir les faire venir après. Mmh. Et le fait qu'elles jouent avec les garçons, elles s'aguerrissent quand même beaucoup plus vite au contact physique. Et c'est vrai que c'est un atout aussi qu'il faut prendre en compte.
Ouais. Alors j'imagine que vous avez des relations avec les différents clubs des Yvelines. Est-ce que vous sentez une volonté générale de la part des clubs de miser sur les sections féminine, ou alors est-ce que ça reste quand même un domaine assez encore confidentiel aujourd'hui ?
Non, je pense qu'il y a des clubs qui ont envie de se développer. Après, il y a d'autres soucis dans le football féminin. C'est que chaque club essaye d'attirer la couverture à lui, mmh, et n'hésite pas à essayer de casser les projets des autres clubs, ce dont on a été victime, mais il y en a d'autres qui le sont. Et il y a des clubs qui essayent de, entre guillemets, de piller les petites sections qui sont autour,
d'avoir le monopole,
pour avoir un monopole sur la région, enfin sur le département plutôt, et c'est une dérive qu'il faut dénoncer, je pense, parce que c'est ce qui s'est passé par exemple dans le 91. Il y a quelques années, il y avait une vingtaine de clubs, et petit à petit il y a deux clubs esseniens qui ont réussi à rassembler et à rattraper toutes les filles chez eux. Du coup, tous les petits clubs ont fermé, manque de joueuses, et ils se retrouvent par exemple pour faire un championnat senior, où ils ont trois équipes.
D'accord.
Donc, ils ne peuvent plus derrière, pour la promotion du football, dans le département, c'est à côté, c'est l'Essonne. Derrière, c'est plus possible. Et du coup, il faut, je pense, pouvoir laisser la possibilité à chaque club de pouvoir monter sa section et de pas forcément avoir les gros clubs qui essayent d'attirer tout le monde et d'aller piller, entre guillemets, les clubs à droite à gauche. Dès qu'il y a 2-3 joueuses, il y a des clubs qui font ça.
Et vous ne pensez pas, alors malgré le diagnostic que vous faites et que je partage, hein, vous ne pensez pas qu'on se dirige au contraire vers un mouvement de mutualisation des moyens pour certains sports? Je crois que c'est présent dans les derniers rapports qu'ils veulent faire sur la réforme sur la gouvernance du sport. On a eu des déclarations de la ministre qui disait voilà, dans certains secteurs on manque de moyens, donc il faudra mutualiser et donc faire des alliances entre communes et avoir des équipes d'agglomération et non pas des équipes de ville. Vous pensez pas que
pour pouvoir avoir une équipe compétitive.
Voilà, exactement.
Je suis pas forcément. Enfin, il y a du pour et du contre. Ça dépend des niveaux. Mais j'ai le contre-exemple que je vais vous donner, c'est qu'en première division féminine, on a trois clubs de la région parisienne. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a le Paris Football Club et il y a Fleury qui est là. Trois clubs de la région qui sont indépendants, qui ne sont pas ensemble, et ce sont pourtant trois clubs qui réussissent. Le PSG qui joue la Ligue des Champions régulièrement, qui a d'autres points que le Paris FC et que Fleury. Mais Fleury, et surtout, c'est celui qui a, je vais dire, le moins de moyens des trois, mais qui sont très intelligents sur leur politique de recrutement et de fidélisation des joueuses, et qui arrivent, voilà, elles sont montées en première division la saison dernière. Tout le monde leur promettait l'enfer qu'elles allaient descendre. Elles se sont maintenues, et là, cette année, elles sont en milieu de tableau, et elles continuent de... En plus d'avoir des résultats, de bien jouer au ballon. Donc je pense que la mutualisation peut être utile dans des milieux ruraux où il y a très peu de joueuses, on va dire, où il y a très peu de moyens. On peut faire des ententes et ça peut fonctionner, mais il ne faut pas que ce soit une généralité, je pense.
Parce que malheureusement, il me semble que le ministère des Sports pense plus à faire des économies plutôt qu'à développer le sport, d'avoir un maillage territorial très, très large. Hein. Le débat porté surtout sur lorsqu'il y a des techniciens rémunérés qui bénéficient d'aides de l'État. La question était de savoir si on pouvait élargir les compétences mises à disposition par le technicien à d'autres structures.
À d'autres clubs autour, tout à fait.
Voilà.
Ça peut avoir du bon, mais je pense que pour la fidélisation des clubs, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Après, suivant le niveau de chacun, il y a du pour, il y a du contre.
Pour arriver au sein des clubs, quels qu'ils soient, il faut arriver à fidéliser sans survendre son club et ne pas vendre que du rêve. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans la construction. Et la construction passe par la fidélisation, et après c'est ce rayonnement qu'on va pouvoir avoir sur la commune, au niveau département, et après si on peut plus au niveau régional, qui va faire que voilà, en faisant parler des uns et des autres, on y arrive.
Julien,
oui, qui sont les clubs en football féminin, évidemment, qui sont les clubs compétitifs là dans le coin, dans les Yvelines, dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Je sais même pas s'il y en a d'autres qui ont une section féminine et qui sont
Alors, ouais, on avait Montigny, qui depuis plus de 20 ans est le club phare des Yvelines.
Ouais.
J'excepte le PSG, hein, qui.
Ouais.
Oui.
Mais voilà, c'était le club phare des Yvelines qui a joué il y a quelques années en première division, qui était entre la deuxième division et la régionale 1 depuis quelques années, et qui malheureusement cette saison a perdu quasiment tout son effectif et qui n'aura joué qu'un mois cette saison et qui aura fait forfait général en régionale 1. L'équivalent de la 3e division nationale. Ouais. Et voilà, elles ont perdu toutes leurs joueuses.
Qui sont parties où, du coup?
Qui sont parties dans d'autres clubs autour. Après, je n'ai pas toutes les raisons. Je suis pas là-bas, mais c'est dommage pour les Yvelines. C'est dommage pour Montigny. Et puis, je pense que c'est dommage pour l'ensemble des Yvelines, des clubs yvelinois. Après, on a également Poissy qui joue en Régional 2. Qui a un bon niveau aussi.
De sa ville, Poissy.
Comment ?
La ville de Poissy est très généreuse en termes de subventions à l'égard de toutes ces structures.
Ouais.
Ça aide.
Ça aide aussi, mais il faut aussi que ces clubs qui ont les moyens puissent pouvoir rayonner et faire monter le niveau général des Yvelines, parce que je pense que dans la région Île-de-France, petit à petit, le niveau dans les Yvelines est en train de diminuer de plus en plus par rapport aux autres départements. Donc il faut qu'on arrive à je pense, remettre les choses dans le bon ordre au niveau du district pour qu'on soit un petit peu plus compétitif et que ça fonctionne un petit peu mieux.
Alors, vous n'êtes pas encore confronté au problème de la détection, mais vous pourrez en subir les effets un peu plus tard si vous arrivez à développer une bonne section senior. Mais c'est un phénomène qui existe quand même dans le milieu, le fait d'envoyer des scouts repérer, sans quota bien sûr, repérer des jeunes talents à ce niveau-là, ou non, enfin, du fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent en jeu, finalement, c'est pas intéressant pour les clubs d'aller envoyer des scouts.
Ça marche dans certaines divisions, et à partir du moment où vous rayonnez, vous évoluez dans certaines divisions, dans les divisions basses, c'est assez rare, et c'est plus au club d'essayer de faire en sorte que la promotion du jeune joueur ou de la jeune joueuse qui est prodige puisse accéder aux détections et autres qui s'organisent. Mais rarement est fait l'inverse, sauf si vraiment il y a eu l'écho qui a été partagé par X nombre de personnes, qui fait qu'à un moment on s'intéresse à un petit club parce qu'il y a un prodige. Mais aujourd'hui c'est moins le cas. Mmh. On va plus chercher dans les équipes qui évoluent, dans des divisions supérieures. Et puis à nous, hein, un petit club, de justement amener ces joueuses-là à pouvoir évoluer demain dans ces clubs-là. Et ça peut être que la fierté d'un président de se dire, ben, elle était chez nous, quoi.
Est-ce que vous avez des futures échéances là, des tournois qui seront organisés dans l'année, un événement dans le calendrier peut-être à mettre en avant pour le club?
On a un tournoi traditionnel, c'est pour les garçons, tournoi U11 futsal, qui a lieu le dimanche 13 janvier,
okay.
Au gymnase à Manila-Hameau.
On va participer en U16 à notre première Coupe des Yvelines à Rony, au mois de le 19 janvier. Donc voilà, c'est aussi une découverte pour les jeunes filles. Hein.
D'accord.
Et puis, on espère au sein du Mani Football Club pouvoir organiser au beau jour, c'est-à-dire sur le mois d'avril certainement, une journée rassemblement sous forme de tournoi de dizaines de clubs yvelinois ou autres. Voilà, sous forme d'un petit tournoi féminin,
d'accord,
purement féminin.
Tournoi féminin. Ok.
Mais on vous tiendra informé
pour
passer l'info, mais voilà. Aujourd'hui, quand on se déplace dans des équipes voisines, on en parle et ça intéresse beaucoup de monde. Donc, je suis assez confiant là-dessus.
Bien, en tout cas, merci. On rappelle que si on veut s'entraîner donc au club de Magny Football Club, c'est donc le mardi, c'est
tout à
ça,
fait.
À 18h et
le jeudi
et au
stade Jacques Anquetil.
Merci Claude, merci Christophe d'être venu dans l'émission. Eh bien,
merci à vous.
Vous reviendrez pour faire la promotion de votre futur tournoi.
Avec plaisir.
Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année dans Parlons Sport. On aura beaucoup d'invités et puis sera l'occasion de faire un bilan général sur cette année sportive. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.